The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Section 1 de La science et l'amour, journal d'une étudiante, par Léontine Zanta. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, La science et l'amour, par Léontine Zanta, chapitre 1. 25 octobre. J'ai voulu revoir aujourd'hui le petit sanctuaire où toute une année, chaque jeudi, je venais auprès d'un maître aimé fortifier mon âme, tremper mon intelligence aux sources vives de la sagesse humaine. 10 heures. J'arrive la première. Personne encore dans la petite salle à manger claire où l'on attend le dimanche matin. Personne dans le cabinet de travail silencieux. Avec émotion, je pénètre dans la pièce. Tout est à sa place. Un ordre immuable règne dans la paix et l'harmonie. Sur les murs, à la tenture d'un rouge un peu fané mais chaud, je revois les photographies, reproductions de tout un siècle de beauté. Au fond, dans son cadre sombre, le juste Lips de Rubens m'apparaît avec cette énigmatique expression qui tant de fois me fit rêver. Ses yeux perçants semblent toujours chercher dans l'horizon lointain la vérité qui fuit. À gauche, au-dessus de la bibliothèque basse, de simple bois de chêne, qui abrite tous les sages anciens, l'admirable fresque de Raphaël. En un long défilé de moines, d'évêques et de saints, des siècles de foi interrogent la blanche hostie qui resplendit sur l'autel. Près de la porte, dans leur naïve beauté, les séraphiques évocations de l'ange du Pérugin. Puis, tout près de ce petit bureau Louis XVI, au cuir passé et taché, pour moi si plein de souvenirs, le Moïse de Michel-Ange, fort, fier, plein d'une assurance qu'il tient d'en haut, une main ferme appuyée sur le livre de la loi dont il est le gardien et l'apôtre. Et chacun de ces chefs-d'œuvre caractérise pour moi une aspiration de celle qui les choisit. Beauté de la forme, beauté morale, antiquité, christianisme, c'est tout cela qu'elle aime et que résume son enseignement. La porte s'ouvre, mademoiselle Claire s'avance, comme toujours souriante, les mains tendues, mais je trouve moins de vraie gaieté dans son sourire, moins de flamme dans ses yeux, et comme mon regard inquiet semble le lui dire, elle m'apostrophe vivement, presque d'un ton de reproche. Eh bien oui, ce n'est pas gai, un retour de vacances. Après la vie libre de grand air, de pensée, reprend la vie d'entrave. Pas une minute à soi, des rendez-vous à prendre, des leçons à organiser, à donner, des élèves à former. Ah, ma chère petite Madeleine, c'est l'éternel recommencement et toujours l'effort. Il faut ouvrir de nouvelles portes sur des champs inexplorés et parfois pleins de broussailles. Alors qu'il faisait si bon se promener à l'aise dans les larges avenues de l'âme d'un disciple connu et aimé. Puis, me prenant par la main, elle m'attire avec elle sur le divan, au-dessous du portrait de Juste Lips, pour une intime causerie. « Alors, ma petite, dit-elle, c'est donc bien décidé. Vous préparez votre licence de philosophie, vous voulez enseigner la sagesse, former des disciples. Avez-vous pensé à la carrière grave que vous allez embrasser? Car on n'est point professeur de philosophie comme on est professeur de littérature, de mathématiques ou d'anglais. Il ne suffit point, pour porter dignement ce titre, de connaître et d'exposer des systèmes, d'avoir l'esprit curieux, aiguisé par une critique sévère, il faut avoir l'âme haute, trempée par la lutte, par une constante maîtrise de soi. Savez-vous que cet enseignement est une manière de sacerdoce ? En vérité, je n'avais guère pensé à tout cela, mais l'entendre dire en cette visite d'adieu, avec tant de conviction, par un maître que j'aimais et que j'allais quitter, me bouleversa. Alors, les yeux plus animés, la parole plus rapide, Mademoiselle Claire continua. Il y en a trop parmi vous qui ne l'envisagent pas ainsi. Il faut un parchemin qui ouvre les portes de l'enseignement secondaire, alors on trouve tout simple, sortant du baccalauréat de philosophie, d'entreprendre la licence de philosophie, on n'a pas l'embarras du choix. Eh bien, cette manière d'entrer dans la carrière est blâmable, je la désavoue, et ne veux point qu'elle soit la vôtre. À l'heure tragique où nous vivons, nous n'avons pas le droit de toucher au grand problème de la destinée humaine par intérêt personnel seulement, ou par pur dilettantisme, non, nous commettrions des erreurs trop graves. Une lourde responsabilité pèse sur ceux qui orienteront dans la vie la jeunesse qui reste et celle qui vient. Malheur aux faux philosophes. Je dirais volontiers d'eux ce que dit l'Évangile des faux prophètes. Ce sont, sous la peau des brebis, des loups ravisseurs. Après cette guerre, lorsque le bilan va se dresser des pertes effroyables qu'aura faites le monde, une vie devra peut-être remplacer 10 autres. Or, cette vie décuplée, que faut-il qu'elle soit en valeur? Qu'est-ce qui fera sa force, sinon la force morale pure? Et la philosophie peut et doit vous apprendre à acquérir cette force morale, si vous la comprenez comme il faut la comprendre. De plus en plus, son émotion me gagnait, les larmes me montaient aux yeux. Je voulais l'interrompre pour lui crier que telle était bien ma pensée, mais qu'en cette minute d'adieu j'aurais eu besoin d'un peu de douceur et que la leçon était trop grave pour mon âme attristée. Elle le comprit, car sa voix se fit plus douce, et, très calme, elle me dit « Mad », c'était mon surnom, elle n'en usait qu'au jour de bonne camaraderie, lorsque nous oublions dans la discussion que nous étions maîtres et disciples. « Mad, séchez vos larmes, que je vois un sourire dans vos yeux. Ne dramatisons rien. Venons-en aux réalisations. J'ai confiance en vous. Je sais que, si vous choisissez définitivement la voie où j'ai guidé vos premiers pas, ce sera à bon escient. Mais il y a la manière. Pour vivre intérieurement, profondément, votre vie d'étudiante philosophe, il n'y a qu'un moyen, c'est d'écrire votre journal. Chaque soir, à la fin de votre labeur, à l'heure où, vous sentant bien seul, vous vous recueillerez, tout comme l'enfant fait sa prière, vous écrirez sur le feuillet blanc la parole intérieure. Vous ferez votre examen de conscience. Il vous permettra d'exprimer au dehors ce que vous aurez été au dedans, et ainsi de vous juger. Désormais, vos maîtres ne choisiront plus pour vous les pensées qui font vivre. À vous de les essayer directement sur votre âme. Et voilà pourquoi ce soir, sur le feuillet blanc, je jette ces premières impressions. Je suis toute seule dans ma petite chambre, qui sera désormais la chambre de l'étudiante, où l'on respectera le travail. Toute la maison repose. Je me sens le cœur lourd, l'âme angoissée. Le choix que je vais faire est-il donc si grave? Faut-il hésiter? Délibérer encore? Non, je ne puis plus, je suis trop lasse. Je déciderai demain. À la nuit, qui mystérieusement tisse les richesses de l'âme, tandis que le corps repose, je confierai les précieux conseils qui ce matin me furent donnés, et demain, je saurai ce qu'il faut faire. 26 octobre. La nuit a fait son œuvre. Ce matin, je me suis levée, l'esprit libre, le cœur allégé, décidée à prendre aujourd'hui même mes inscriptions. À 11 heures à peine, j'étais au quartier latin. Dans la rue des écoles, grand encombrement, les candidats au baccalauréat venaient d'achever leur première épreuve, la composition française. J'enfile la petite rue de la Sorbonne, j'essaie de pénétrer chez mon libraire, on s'arrache les feuilles qui donnent, soi-disant, le développement type du sujet proposé et que vient d'élaborer dans l'arrière-boutique un jeune étudiant ou quelque chauffeur de boîte. J'entre dans la cour de la Sorbonne, le cœur me bat. J'y retrouve tant d'émotions. J'aime son dessin carré, correct et sévère, ses pavés rudes, son cadre de bâtiment encore neuf, avec leurs galeries aux colonnes de pierre blanche, aux fresques de couleurs vives. Au fond, la vieille église un peu surélevée sur une deuxième cour pavée, que l'on atteint en montant quelques marches, donne la note douce et réconfortante du passé, qui domine le présent tout en restant dans l'ombre. Mais peu importe d'ailleurs mes impressions, ce qui se dégage nettement de ces pierres, c'est le symbole de la pensée qui s'efforce de découvrir la vérité dans l'enthousiasme de la foi passée ou dans les angoisses du doute présent. Ils ont la mine bien piteuse, les pauvres potaches réunis là en groupe. Ils consultent fiévreusement la feuille oracle. Il y a plus d'un an, à la session de juillet 1915, je faisais comme eux, et je constatais, à mon grand désespoir, que je n'avais rien compris au sujet. Pourtant, je fus reçu avec félicitations. Je voudrais le leur dire à mes pauvres frères d'infortune, et je n'ose. Je pense aussi à la joie folle qui suivit ce premier succès. Puis, ce fut l'année bénie de ma philosophie, pour moi, suite d'enchantement. J'étais comme le voyageur que conduit un merveilleux pilote à travers des mers inconnues, aux horizons toujours changeants, toujours plus beaux. Aujourd'hui, je suis sans pilote, et je m'embarque sur une mer pleine d'écueils. J'entre au secrétariat. Je m'approche d'un guichet, au-dessus duquel je lis « Inscription pour la licence », et je demande là les renseignements qui me sont nécessaires. Je suis mal reçu, on ne me comprend pas. Ce n'est pas étonnant. Ce sont encore les vieux à tête blanche qui, pour une troisième année scolaire, remplacent les jeunes. Pendant ce temps, le secrétariat se remplit. Je n'y vois que des femmes. Elles se regardent curieusement, en silence. Un étranger, américain du Sud, si j'en juge par sa mise recherchée et son accent, représente le seul étudiant. Les formalités achevées, je me retire. Je retrouve, presque déserte, la grande cour carrée. À la vieille église de la Sorbonne, l'aiguille du cadran marque midi. Les groupes des candidats anxieux se sont dispersés. Je puis sans difficulté pénétrer chez mon libraire. J'ai hâte d'avoir entre les mains ce programme qui contient la liste des auteurs de la licence, toute ma science future. Pour la seconde fois, me voilà devant la page blanche. Je n'ai à lui confier que des impressions découragées. Mon programme ne me séduit pas. La Sorbonne m'a paru triste et froide. Avec la jeunesse virile, la vie a quitté ses murs. Il semble que les fresques qui ornent les galeries veillent déjà sur quelque Campo Santo. Les grands couloirs sont muets et mélancoliques, comme ceux d'un monastère abandonné. En revanche, il y a tant d'étudiantes. D'où vient cette impression dont je ne puis me défendre? Manquons-nous d'enthousiasme? Manquons-nous de courage? Non, ce reproche ne serait point justifié. Nous sommes seuls, et ce fait n'est point selon l'ordre. Le féminisme n'avait de sens que lorsqu'il permettait la lutte à armes égales sur un même terrain. Aujourd'hui, il s'impose, il est une nécessité. Dès lors, il perd beaucoup de son intérêt. La Sorbonne est aux femmes et elle ne fut pas créée pour des femmes. Il eût fallu qu'elles vinssent la conquérir par une supériorité réelle avant que de s'y installer. Mais peut-être toutes ces impressions sont-elles trop pessimistes parce qu'elles sont trop hâtives. Il faut attendre l'entrée en lice. Dans 8 jours s'ouvrent les cours, alors seulement j'aurai le droit de juger. 30 octobre. 4 jours sans écrire. C'est que pendant ces 4 jours, j'ai mené une vie tout extérieure, faisant du matin au soir des courses indispensables. Ce matin, le hasard me fit jeter les yeux sur le volumineux courrier de mon père. J'y distinguai un papier gris qui m'était bien connu, avec une écriture qui m'était chère. Oui, une écriture ronde, ferme, droite, aux lignes coupées nettes, marquant bien la volonté d'arrêt de celle qui fut mon maître. Je saisis la lettre, je ne m'étais pas trompée. Je courus aussitôt, le cœur en joie, me réfugier dans ma chambre. Je voulais être seule pour la lire. Cette grande amie ne nous parle bien que dans le tête-à-tête, dans la douce intimité. Ah, elle était bien courte, la chère missive, mais comme toujours, réconfortante. C'est la pensée qui nous suit, le maître qui veille, la lampe qui éclaire. Si elle savait que nous l'appelons la lampe. Un modèle et voilà de la clarté. Je lus. Ma chère petite, je pense à vous. L'ouverture des cours est annoncée pour le 6 novembre. Êtes-vous prête? Je ne vous demande point quelle branche vous avez choisie. Je le sais, ou plutôt, je le devine. J'étais sûre de votre choix, et si je vous ai fait tant d'objections l'autre jour, c'était pour vous éprouver. Vous avez le goût et le sens de la philosophie. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans le bien, dans la volonté droite. Mais surtout, veillez sur vous, et chaque soir confessez-vous à votre journal. Ne craignez point d'y noter le moindre petit fait. Si votre âme l'a gardé, c'est qu'il a sa résonance spirituelle. De loin, moi aussi, je veille, et si vous vous sentez parfois trop lasse, venez, je vous réconforterai. J'ai relu plusieurs fois le petit billet. Une joie profonde m'inondait le cœur. Je pensais, je ne serai donc pas seule dans ma vie d'effort et de lutte. Une pensée suivra la mienne. Le courage me revenait. Il fallait tendre de nouveau cette volonté que quelques impressions mauvaises, passagères, avaient laissé se détendre. Voyons, que s'était-il passé pour qu'une telle grisaille m'eût envahi l'âme? Eh bien, on m'avait affirmé que je pouvais, que je devais avoir la gratuité de mes inscriptions à la Sorbonne. Je suis fille aînée d'une nombreuse famille. J'ai deux frères sur le front et deux petites sœurs dont la dernière n'a que 6 ans. Mon père travaille à cet enfer des munitions. Pauvre père, quelle destinée que la sienne! Excellent élève de l'école centrale, modeste ingénieur sans fortune, il dirige pour un salaire minime des ouvriers mieux payés que lui. J'espérais avec de telles raisons gagner ma cause? Nullement. Les chiffres furent les seuls arguments. Il m'a fallu dresser tout un dossier. Ressources de famille, généalogie de ses membres, gains du père de famille, 6 000 francs par an. Ce chiffre formidable fut notre condamnation. Avec de si beaux appointements, un père de famille demandait la gratuité d'inscription pour sa fille, mais vous n'y pensez pas. Voilà ce qui me fut répondu. Ah ! Qu'ils viennent donc à notre foyer, ceux qui parlent ainsi. Ils verront dès l'aube, ou plutôt à la nuit encore noire, ma pauvre maman, fatiguée par ses maternités successives, aller, venir, sans prendre un instant de repos, présider à la toilette des petites, préparer le déjeuner, vaquer aux soins du ménage, mère et épouse admirable, être condamnée à la besogne de bonne à tout faire. Voilà la cause de la grande amertume qui m'était restée dans le cœur. Si la société fonctionne mal, si des rouages grincent, car ils sont usés à force de porter le poids de toute la machine, à quoi bon gémir et se plaindre? Ne vaut-il pas mieux essayer d'échapper à ce mécanisme par la lutte? La lutte individuelle que peut entreprendre dans son milieu toute âme généreuse? Pourquoi ne donnerais-je pas des leçons? J'ai 22 ans, je suis bachelière, il y a des commençants, j'ai l'expérience des enfants, je puis fort bien en assumer la charge. Beaucoup de mes camarades ont choisi ce moyen pour se tirer d'affaire. Puis, cherchant dans ma mémoire le nom de celles qui furent à notre collège mes compagnes d'études, je revois tout à coup la jolie et grave physionomie de ma petite compagne Alice Bernard. Elle donne des leçons tout en préparant sa licence. Voilà l'exemple à suivre. Quelle triste histoire que la sienne! Je vais y puiser, en l'écrivant, une leçon d'énergique résignation. Elle était belle, mais d'une beauté qui nous parut un peu hautaine et froide, cette Alice Bernard, avec son nez droit, ses grands yeux bleus ombragés de longs cils, ses boucles noires tombant de chaque côté du cou. Pendant plusieurs jours après son apparition au collège de Stahl, elle resta pour nous une énigme. Je la vois encore s'installer au milieu de nous sans mot dire, écouter immobile le cours du maître que ses regards ne quittaient pas, et disparaître comme elle était venue, silencieuse, impénétrable. Nous faisions à son sujet plus d'une conjecture. C'était une jeune fille du monde qui travaillait en dilettante, pensions-nous, en dernière hypothèse. Nous allions bientôt dévoiler le mystère. Alice, avec le temps, s'apprivoisa et nous raconta qu'elle ne se destinait point à l'enseignement, mais qu'elle se marierait. Elle était fiancée à un officier de dragons et sa mère avait exigé qu'avant son mariage elle fût bachelière. Au dernier thé d'avant-guerre que nous offrit en mai 1914 Mademoiselle Claire, Alice nous présenta son fiancé. Nous étions toutes groupées autour d'une table coquettement et copieusement servie, à fêter joyeusement le printemps fleuri, lorsque Alice s'avança, suivie de son beau dragon. Ils étaient rayonnants, Leur bonheur s'étalait même avec naïveté, mais l'on ne pouvait leur en vouloir. C'était de la beauté qui entrait avec ce couple amoureux en pleine jeunesse, en pleine joie de vivre. 2 ans s'étaient écoulés. La guerre se prolongeait sans que l'on pût en prévoir la fin. Las d'attendre dans cette incertitude cruelle du lendemain, les fiancés avaient fixé pour se marier la première permission du dragon qui, maintenant, vivait dans les tranchées et la vie de fantassin. C'était la veille de son départ. Debout au milieu des hommes désignés pour les patrouilles de nuit, il leur donnait quelques rapides instructions. Soudain, le bruit sec d'une balle qui rencontre un obstacle. Il chancelle. Un remblai de terre empêche qu'il ne tombe. Il y reste appuyé, immobile. Son frère, à quelques pas plus loin, l'a vu chanceler. Il se précipite, le prend dans ses bras, les yeux fixés sur cette bouche entrouverte et qui semble encore parler. Il l'appelle par son nom. Il ne peut croire à la mort, tant cette physionomie garde encore l'apparence de la vie. Hélas, la bouche reste muette. Les yeux fermés ne s'ouvrent plus. En silence, 2 hommes ont préparé dans un abri une toile de tente couverte de rameaux verts. On y transporte le dragon. Et toute la nuit, à la lumière vacillante de 2 bougies, on aurait pu voir auprès de ce lit funèbre improvisé 2 poilus à genoux. Le soldat, relayé d'heure en heure, et le sergent, qui, pieusement, jusqu'au petit jour, veillait le corps de son frère. Pendant ce temps, Alice rêvait. Pauvre petite, comme elle fut courageuse. Elle porta fièrement, dignement, sa douleur. Aucun changement n'apparut, sinon que son visage régulier se marqua de quelques plis sévères. Sa vie pourtant était brisée. Les fiancés de la guerre n'ont droit qu'à la pitié. Mais Alice ne voulut point de la pitié. Elle se mit à reconstruire son avenir détruit, à gagner sa vie et celle de sa mère. Son courage fut aidé. Un professeur de lycée habite dans sa maison. Elle lui rend service en lui corrigeant de fastidieuses copies. Il lui trouve des leçons. Je ferai comme elle. Je donnerai des leçons en préparant ma licence. Déjà je me sens mieux. Je comprends maintenant ce que vaut en force la vie intérieure. Que de choses excellentes nous portons en nous sans nous en douter. Que de souvenirs dont l'évocation nous serait salutaire aux heures de crise et que nous ne trouvons pas parce que nous avons négligé de les cultiver par la méditation dans la solitude. Oui, elle avait raison, ma lampe, ma chère lampe, de me recommander cette confession chaque soir. Le souvenir de cette petite camarade presque oubliée m'a rappelé que j'avais des sœurs qui souffraient comme moi. En vérité, il n'y a qu'une souffrance, car il n'y a qu'un seul mal, celui que crée l'injustice des hommes au sein d'une société faite de privilèges. Seule la bonne volonté d'une élite trouverait le remède en dégageant l'idée du bien qui donnerait un sens à l'effort. Quelle lutte inégale, et pourtant, quelle belle lutte si nous la livrons chacun comme il faut, avec l'enthousiasme de la croyance au bien. Nous pouvons nous sauver, et sauver les nôtres. 31 octobre. Je me suis levée ce matin, le cœur tout joyeux. C'est avec un entrain qui m'a surprise que j'ai aidé maman dans les menus soins du ménage. Pendant qu'elle faisait la toilette des petites, j'ai préparé la salle à manger, passant la laine sur le parquet, essuyant les meubles, ces vieux meubles bretons si sympathiques dans leur rustique simplicité. Les 1000 petits détails grossiers de leur sculpture naïve m'intéressaient, m'amusaient, comme si je les voyais pour la première fois. Puis j'ai mis le couvert, et sur cette table sans nappe, en bois de chêne, que j'avais en frottant, poli comme une glace, je composais un ensemble harmonieux, disposant en ordre les tasses de grosses faïences à fleurs, le pot au lait lourd, tout blanc, la cafetière en émail, la corbeille à pain. Tout est prêt. J'appelle mon monde. Je suis gai, en train. On l'entend au son de ma voix. Ma mère arrive souriante. Elle n'a de joie que celle des siens. Les enfants, comme de petits fauves, se précipitent sur leur pâture. Les tartines de pain sec, assaisonnées de leur jeune appétit, disparaissent, et papa, si préoccupé d'ordinaire, semble ce matin moins soucieux. Je découvrais enfin la beauté dans la simplicité de ce repas familial, et j'en jouissais pleinement. Pourquoi donc aujourd'hui seulement? Tout simplement parce que j'avais accepté ma vie. En la regardant bien en face, j'avais compris que si elle était pauvre en biens matériels, elle était riche en autres biens, que ces biens étaient seuls appréciables, car ils étaient mon œuvre à moi et dépendaient de moi. J'avais fait du stoïcisme sans m'en douter. Oh, comme elle serait heureuse, notre cher philosophe, de m'entendre raisonner ainsi. Oui, j'avais accepté ma vie et, conséquence naturelle, j'avais cherché à m'y adapter dans la mesure de mes forces, et j'avais découvert que je pouvais travailler double en donnant des leçons et en préparant mon examen. Dès lors, j'avais un but où tendre mes efforts, un programme de vie, et je ressentais une joie profonde qui s'épanouissait en une vraie gaieté. Je crois bien que j'avais chanté ce matin en frottant mon parquet. En tout cas, dans la rue, sur le macadam glissant, tandis que je conduisais mes petites sœurs au cours, je m'amusais à courir avec elles, à les faire sauter, si bien que l'aînée, Jacqueline, me regardant avec ses yeux malins d'enfant terrible, me dit « Qu'est-ce qui t'est donc arrivé ce matin, Mad, que tu sois de si bonne humeur ?» On ne pouvait me dire plus clairement que je ne l'étais pas toujours. Ce soir, j'ai passé à la Sorbonne consulter les affiches. Il n'était que temps. Les cours ouvrent le 6 novembre et puis je n'étais pas fâchée de reprendre contact avec cette terrible Sorbonne qui, lorsque je m'étais fait inscrire, m'avait laissé une pénible impression. Je suis donc entrée par la grande porte, rue des Écoles, et j'ai franchi rapidement la salle des pas perdus, sombre et déserte à cette heure, pour prendre à droite la galerie des lettres. Tout au bout, j'aperçois, dans les cadres de chêne, les affiches entassées. Mais quel splendide spectacle me fait lever les yeux et me laisse un moment immobile dans l'admiration. Un rayon de soleil tombait sur les fresques qui décorent le haut des murs blancs. Sous sa lumière dorée, comme dans une féerie, resplendissait le Parthénon, avec ses colonnes cannelées, le forum au milieu de ses ruines. J'eus un instant l'illusion que je revivrais dans ce passé si riche en souvenirs de grandeur et de gloire, de poésie et de beauté. Si c'était vrai, pourtant, si quelque bonne fée pouvait opérer le miracle de m'arracher au présent atroce d'une civilisation qui pille, qui tue, qui accumule des ruines. Mais non, la bonne fée ne viendra pas. Les papiers étaient là, fixés les uns au-dessus des autres, il me fallut les déchiffrer. Ils étaient nombreux, il y en avait de toutes les tailles, pour toutes les branches. Ils indiquaient les cours et les sujets de cours, et au milieu d'eux, la philosophie tenait la plus petite place. Modeste, comme la sagesse, elle se cachait. Je me mis à lire et, peu à peu, ce fut le désenchantement. Rien de ce passé qui pourtant nous ferait revivre, rien, ou très peu, de la philosophie antique. Elle est pour une élite et l'on veut nous démocratiser. Mais de la philosophie moderne, il y en avait. Il y avait surtout de l'esprit moderne sous forme de sociologie, d'histoire de la philosophie critique. Où chercher dans tout cela des idées hautes et belles, où me retremper et me refaire des forces, m'élever au-dessus du niveau de la vie cruelle ou médiocre. Et moi qui avais commencé par goûter la philosophie dans une ivresse presque religieuse, oh, ces leçons inoubliables où nous expliquions l'admirable Phédon. Un jour, pendant deux longues heures, dans le cadre harmonieux du cher bureau, au milieu des reproductions des chefs-d'œuvre de la Renaissance, avec mon guide à l'imagination toute pleine des rêves de l'au-delà, nous discutions sur l'immortalité de l'âme. Nous avions oublié et le temps et le lieu où nous étions, et nous-mêmes, nous vivions dans l'illusion d'être déjà, comme dit Socrate, dans ce sublime Phédon, des âmes libérées. Que ce souvenir vienne me soutenir, ce soir où je me sens faiblir, devant un tel programme d'études. En même temps que votre foi lumineuse en l'au-delà, donnez-moi votre courage, chère lampe. Je suis trop impressionnable, trop prompte à l'enthousiasme, mais aussi au découragement. C'est demain le 1er novembre, jour de fête. Sans doute vous recevrez vos étudiantes, et je viendrai. 1er novembre. Il n'est pas 10 heures et je sonne avec un battement de cœur joyeux à la porte de Mademoiselle Claire. Marie, la fidèle servante à l'allure de sécularisée, portant lunettes, impassible gardienne du temple de la philosophie, m'introduit dans la salle à manger. Hélas, je ne suis pas seule. Deux nouvelles étudiantes attendent déjà. Je ne puis réprimer un mouvement de mauvaise humeur, et saisissant brusquement une des petites chaises rangées le long du mur, je l'approche de la table, comme pour faire acte d'habitué. Puisqu'il faut attendre, je déplie mon journal. Mes yeux aussitôt cherchent le communiqué. Où ce bâton ? Dieu merci, ce n'est pas dans l'Aisne. Le secteur de mes frères est pour l'instant épargné. Quel égoïsme dans cette première impression. Chacun de nous vit non pas la guerre, mais d'abord sa guerre, celle qui menace des êtres chers. Comme je relevais la tête du côté de mes compagnes, je vis deux grands yeux noirs profonds se fixer sur moi. À ce moment, Mademoiselle Claire ouvre la porte et fait entrer dans son cabinet l'autre jeune fille, une grosse blonde au teint pâle, aux yeux sans vie. Puis, se tournant vers moi, elle me fait un petit signe de tête amical qui voulait dire beaucoup de choses, entre autres ceci. « Un peu de patience, Mad. Vous serez la dernière, mais vous aurez la meilleure part. » Ma joie est grande, ma nervosité aussi. Au bout d'un instant, n'en pouvant plus, pour tromper le temps, je dis à ma petite voisine. « Y a-t-il longtemps que vous connaissez Mademoiselle Claire ?»« Je l'ai vue pour la première fois en janvier 1916, » répondit-elle. « Je m'étais adressée à elle pour avoir une direction générale dans mes études philosophiques. J'avais déjà la première partie de mon baccalauréat, puis des changements sont survenus dans notre situation de fortune qui m'ont forcée à interrompre brusquement mes études. Je me suis engagée comme infirmière volontaire et c'est aujourd'hui seulement que je puis songer à reprendre mon travail si toutefois j'obtiens un congé régulier de mon hôpital pour venir prendre mes leçons. » Tandis qu'elle parlait, sa petite figure d'enfant, où l'on ne voyait que deux grands yeux, prenait une telle expression d'énergique résignation que je continuais, au risque d'être indiscrète. « Vous êtes infirmière et vous paraissez si jeune. Mais comment allez-vous tenir, ayant à supporter une double fatigue intellectuelle et physique tout à la fois ?»« Mon Dieu, » fit-elle simplement, « on trouve toujours de la force quand il le faut. » Et notre conversation prit fin. C'était à son tour de passer au confessionnal, comme nous appelions parfois en riant le cabinet de travail de notre cher philosophe. Elle se leva donc et je lui tendis la main. Je sentais quelque chose vibrer en moi pour cette petite et je pensais « Il y a de belles âmes parmi les nôtres. Que de soucis, de souffrances courageusement supportées se cachent derrière ces volontés tenaces d'obtenir des diplômes, volontés que le monde juge si légèrement ou si mal lorsqu'il nous traite d'indépendantes et d'orgueilleuses. » Tout à coup, la voix de Mademoiselle Claire se fait entendre à travers la porte fermée. « Mad, Mad, venez donc, nous avons quelque chose de très bon à vous dire. » Je me précipitai tout étonné, puis, sans me laisser le temps de dire un mot, Mademoiselle Claire continua. « Vous m'aviez écrit pour me demander une élève, une commençante, je crois, et voilà que je vous trouve une élève de tout premier ordre, Renée là-bas, que je vous présente. » Comme je me récriais, « Mais, chère mademoiselle, y pensez-vous ? Préparer un baccalauréat, mais je n'en sais pas assez. » Elle me ferma la bouche. « Eh bien, vous serez mon répétiteur. Vous referez à votre élève le cours et les leçons que vous avez recueillis de moi l'an dernier. Voyons, vous ne pouvez pas me refuser cela. Vous travaillerez en camarade. Vous êtes admirablement faite pour vous entendre l'une et l'autre, car vous vous complétez. Vous ferez un échange de vos petites richesses. Vous, Mad, vous passerez à Renée de votre modeste science. Elle vous passera de sa force morale. » Pendant ce temps, elle nous prenait toutes deux par la main et nous rapprochait l'une de l'autre, et nous devinions tout ce qu'elle avait su combiner en un instant pour notre bien à toutes deux. Oui, ce serait l'entraide morale, mais aussi matérielle. Il n'y avait plus qu'à convenir du jour de la première leçon. Renée Labasse m'en informerait dès qu'elle aurait vu son infirmière-major. Elle nous quitta, sa jolie petite figure tout éclairée. « À nous deux maintenant, la grande affaire, » dis-je à Mademoiselle Claire, en sortant de mon sac un petit papier tout chiffonné. « Chère grande amie, » cette appellation m'était permise aux heures de détresse, « voici le fameux horaire des cours. Il fait mon désespoir. Mais lisez vous-même. » Un long silence, puis un éclat de rire. « Ma pauvre Mad, je comprends maintenant ce qui vous désespère. Vous rêviez un cours de morale à grand idéal, et vous n'avez qu'un cours de sociologie ? Vous vouliez vous documenter sur la psychologie affective, car vous avez toujours bataille à tenir contre vous-même, et l'on vous traite des grands problèmes de la vie intellectuelle. Enfin, au lieu de vos chers philosophes, Platon, Aristote, les stoïciens, ce sont les représentants de la philosophie critique ou bien encore un moderne mathématicien philosophe, un Cournot avec son hasard et ses probabilités, vous qui aimez la certitude. Eh bien, c'est presque tant mieux, ma chère petite. » Et elle me prit affectueusement la main. « C'est un moyen comme un autre, en tout cas, un moyen efficace, d'apprendre à modifier vos goûts. votre esprit ne pourra que s'assouplir à cette discipline. En Sorbonne, vous étudierez la philosophie. Le soir, chez vous, en face de votre journal, vous la vivrez. Alors vous pourrez être vous-même, faire votre choix, sans vous appuyer sur un maître. » Puis Mademoiselle Claire se leva, me donnant sur l'épaule l'amicale accolade du départ. Toute triste, je lui dis « Alors il me faudra tout essayer, assister à tous les cours, et puis après je reviendrai. » 5 novembre. C'est la veille du grand jour. J'ai bien de la peine à maintenir mon équilibre. Mon imagination m'emporte. Je vois ma journée de demain, j'assiste à mon premier cours en Sorbonne, j'entre dans la salle. Ah, je la connais bien, c'est l'amphithéâtre Turgot. En juin dernier, j'y fus proclamé admissible. Quelle émotion! Il faisait ce jour-là une chaleur torride. Nous étions tous entassés les uns contre les autres, devant la porte close comme un troupeau sur le pont d'un navire. 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie, toujours rien. Les têtes s'échauffaient. Les plus indisciplinés essaient un chahut, frappent du pied, donnent des coups dans la porte, d'autres blagues pour tromper leur émotion. « Quelle délibération! On nous repêche !» crie l'un. « On nous noie !» réplique l'autre. Une clé grince, les battants de la porte s'ébranlent et bientôt plient sous la pression de ce flot humain, menaçant de submerger dans sa brusque irruption la pauvre tangente à tête blanche qui essaie en vain de l'endiguer. On se case comme on peut. Les plus inquiets restent en arrière, les autres descendent au premier banc de l'amphithéâtre. Je suis de ce nombre. Le flot d'ailleurs m'entraîne et mon émotion me rend incapable de résister. La proclamation commence. Silence de mort. Les noms les plus bizarres se succèdent. Je n'en distingue aucun, sauf le mien. Il est le dernier de la liste. C'est alors un bruit infernal. Les candidats admissibles descendent, joyeux, occuper les premiers bancs, tandis que les ajournés remontent, l'air pitoyable, vers le fond de la salle. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Un jeune homme s'approche de moi. Il me présente la plume pour signer mon nom sur le registre, et me regardant bien en face avec ses yeux clairs, il me dit « Vous avez donc peur, mademoiselle? Mais cet oral, ce n'est rien du tout. Et puis nous avons un excellent jury, regardez-les. Ils n'ont pas l'air bien terribles. » Et il se mit à les plaisanter. À ces paroles de bonne camaraderie, mon émotion disparut. Et tout le temps que dura cet odieux examen, après chaque épreuve, l'un et l'autre nous échangeâmes nos impressions, ce qui m'aida à garder mon sang-froid. Ah, si je pouvais vivre ce beau rêve d'une année d'études avec de bons camarades! Si nous pouvions former en Sorbonne ce petit cercle d'élite où l'on travaillerait en commun, les uns pour et avec les autres, pratiquant à fond et en convaincu l'entraide matérielle et morale, où l'on s'aimerait, où l'on n'aurait qu'une âme collective, harmonisant, sans les confondre, nos personnalités respectives. Il me semble que ce serait le bonheur, et que je trouverais enfin l'équilibre de mon instable sensibilité. Pourtant, cette sensibilité mouvante dont je souffre tant n'est point écrasée ici. Au foyer familial, nous nous aimons tous. Je reçois les tendres caresses de ma mère, je lui prodigue les miennes. Je jouis des effusions charmantes de mes petites sœurs. J'ai l'affection profonde d'un père qui veille sur moi en travaillant du matin au soir. À mon tour, je me donne à tout ce que j'aime dans ces 1000 petits soins que requiert la vie domestique. Pourquoi reste-t-elle sourdement en moi, cette impression que ma vie ne répond pas à mes besoins? C'est que je sens que je puis me donner davantage, sous une forme plus complète et plus haute. Il y a tout au fond de moi-même un monde de pensées, d'aspirations, de vouloirs, qui dorment incompris, car il ne s'échange point dans ma vie quotidienne. J'en souffre, et suis ainsi à la merci des réactions les plus pénibles et les plus inattendues. Voilà le grand danger pour nous, les femmes de la génération nouvelle. Nous avons des mères qui n'ont point connu les tourments, ni les joies, de la vie de la pensée. Nous leur demeurons étrangères dans la plus intime et profonde partie de nous-mêmes. Nos pères, accablés par le poids des affaires et les responsabilités qu'elles entraînent en ces temps de guerre, n'ont plus le loisir de se pencher sur nous. Nos frères sont sur le front. Alors nous sommes seuls, si seuls qu'il nous faut chercher hors du foyer, au hasard, chez nos compagnons d'études, l'amitié dont il est impossible à nos cœurs de se passer.
Fin de la section 1,
enregistrée par Pauline Latournerie.
Section 2 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 2. 6 novembre. Au soir du grand jour qui devait être pour moi fécond en émotions de toutes sortes, je me trouve dans un tel état d'indifférence que je me demande si les faits qui ont marqué cette date valent la peine d'être notés. Quelle leçon pour ma folle imagination! Voilà bien l'histoire de toutes mes désillusions. Je me fais des idées graves sur des événements très ordinaires, j'y pense avec enthousiasme, puis l'événement se produit et mon rêve, en face du fait, m'apparaît si disproportionné que j'en pleure. Cette fois, j'ai pris le bon parti. J'en ris. Je me moque de cette rêveuse, de cette incorrigible idéaliste que je suis. Mais oui, vous aviez raison, chère Lampe, de me renvoyer à l'école des criticistes et des positivistes. J'y apprendrai au moins quelque chose, la méthode qu'il faut suivre pour ne plus s'emballer. C'est à 10 heures, amphithéâtre Turgot, que devait avoir lieu mon premier cours. À 9h30, j'étais sous la voûte, en face de la librairie Croville-Morand, chère aux candidats du baccalauréat. En sortant de chez moi, j'avais pressé le pas sans trop savoir pourquoi, car j'étais en avance. L'émotion me donnait des ailes, l'émotion sans doute aussi me poussa à gravir les marches de pierre qui conduisent à la vieille église de la Sorbonne. Je pénétrai donc dans ce sanctuaire silencieux, recueilli à cette heure matinale qui n'est point celle des curieux ni des candidats en détresse, mais des rêveurs qui aiment la solitude pour la peupler à leur gré. J'aime ce vieux temple aux pilastres corinthiens mi-laïques, mi-religieux. Il évoque pour moi tout un passé de belle gloire, celle de la pauvre Sorbonne, où il y eut vraiment des maîtres et des disciples, où l'on sut se passionner pour des questions de pure dialectique peut-être, mais qui apprenaient à combattre pour une idée, donnaient une foi, une conviction qui mettait de l'unité, de la force dans l'âme. Maintenant, c'est soi-disant le progrès, avec l'avènement de cet esprit qui accepte toutes les doctrines, mais tue l'enthousiasme, l'esprit critique qui mesure tout à l'aune de notre pauvre raison et laisse la porte ouverte à l'égoïsme, à l'utilitarisme en science, en art, en religion. C'est bien ce que disent les ex-voto. Pendus au mur de la vieille chapelle, ils sont en marbre gravé d'or, ils répètent, sous maintes formules banales, la reconnaissance d'un bachelier ou d'un licencié. Est-elle changée à ce point, la vieille Sorbonne, qu'elle ne soit plus qu'une école où la masse indistincte d'intelligence moyenne prépare et gagne des diplômes parce qu'il en faut pour vivre, au lieu d'être l'école d'une élite qui se désintéresse de la vie pratique pour vivre de la pensée pure? Je fus brusquement tiré de ma rêverie par les 10 coups de l'horloge, l'heure de mon cours. Je n'avais qu'à me hâter. J'arrivais tout essoufflé à la porte Victor Cousin. Je pénétrai dans le vestibule, il était vide. C'est bien cela, pensais-je. Tout le monde est entré, je suis en retard. Pourtant, à gauche de la porte qui ouvre sur l'amphithéâtre Turgot, j'aperçus, penché sur une petite affiche, 2 étudiants. Ils semblaient la consulter avec attention. Je m'approchai et je lus que le cours qui devait avoir lieu ce matin était remis à huitaine. Mon imagination avait donc travaillé en pure perte. Je n'avais qu'à regagner, désappointé, ma rue de l'abbé de l'Épée. 7 novembre. Eh bien, le voilà passé, le Rubicon. Ce premier cours, j'y ai assisté aujourd'hui sans enthousiasme, sans aucune émotion. Pas d'amphithéâtre, mais une grande salle nue et claire, aux rangées de pupitres, tous alignés sur un même plan. J'y ai retrouvé la banale salle de classe de nos lycées. Le nivellement de notre démocratie se fait par en bas. Enseignement supérieur et enseignement secondaire n'ont plus extérieurement aucune différence, et je me mis à regretter la toge, le bonnet carré des docteurs d'autrefois. Quel enfantillage! Il y avait pourtant autre chose que la robe à considérer chez le maître, assis dans cette chaire devant moi. Il y avait la pensée. Sa pensée ne me captiva pas. J'eus beau tendre de toutes mes forces les ressorts de mon esprit, il ne m'en reste rien. C'était fort savant, fort bien raisonné. Tout ce qu'il nous dit pendant 2 heures sur les problèmes que pose la sévère logique, mais ces questions n'arriveront jamais à me passionner. Pourtant, il y avait des amateurs. Tout au premier banc, Une dizaine d'étudiants et d'étudiantes approuvaient. Ce sont les calés, paraît-il, tous déjà licenciés ou boursiers d'agrégation. Ceux-là goûtaient avec un plaisir véritable cet art de raisonner pour raisonner. J'ai retrouvé quelques-unes de mes anciennes camarades. Alice Bernard, toujours aussi courageuse, aussi stoïquement résignée. Betty Neltner, l'héroïque petite rémoise, qui s'est décidée enfin à abandonner sa cité en ruine avec sa mère et sa grand-mère. Pour les faire vivre, elle donne des leçons. Germaine Clot, la grande philosophe, qui faisait au collège de Stahl notre admiration avec ses mots savants. Nous nous sommes retrouvées à la sortie, toutes quatre assez désenchantées. « C'est joliment dur à suivre, cette logique, » me dit Betty en faisant une petite moue découragée. « Quel cénacle de femme, » ajoute Germaine Clot. Si toutes celles que groupait autour de lui le pontife de la logique ont compris quelque chose à ses oracles, je veux bien être pendue. Moi, je n'y ai rien vu et me suis mortellement ennuyée. » Ce que d'ailleurs elle traduisit par un énorme bâillement qui fut communicatif. « Oui, un mortel ennui. Voilà le sentiment qui survit en moi de cette première séance. Pourtant, si je veux être franche, il me reste un autre souvenir de cette journée, souvenir qui m'apporte une grande douceur, mais il est d'un tout autre ordre. Peu importe, je dois le noter. J'allais prendre congé de mes camarades dans la grande salle des pas perdus, lorsqu'un jeune homme s'approcha respectueusement de moi et me demanda s'il pouvait m'être agréable d'avoir à ma disposition ses notes pour compléter les miennes. Surprise, je le regardai d'abord sans répondre. « Jacques Gémis, ajouta-t-il, série 31, qui fut, en même temps que vous, mademoiselle, reçu bachelier. » Et je reconnus aussitôt à sa physionomie un peu souffrante, mais sympathique, mon petit camarade de juin dernier. « Comment ? Vous préparez votre licence ? Lui dis-je un peu étonné. « Je croyais que vous étiez de la classe 1918 et que vous alliez partir pour le front. »
« Je suis ajourné, reprit-il tristement, mais pour un an seulement, je l'espère. »
Je le regardai alors avec intérêt et remarquai ses épaules étroites, ses joues un peu creuses, ses yeux tout pleins de pensées. Je le remerciai et lui dis que, si je n'avais pas besoin de son concours aujourd'hui, cela ne voulait nullement dire que je n'y aurais point recours un autre jour, et nous nous sommes quittés sur une cordiale poignée de main. 8 novembre, troisième jour de Sorbonne. Nous avons eu cet après-midi un cours fort ennuyeux sur les limites du champ de la conscience, avec un professeur dont nous ne sommes pas arrivés une seule fois à croiser le regard, tant il était absorbé par des notes et des références, et tout cela pour arriver à des conclusions que nous n'avons pas su dégager. Jacques, je puis bien l'appeler ainsi dans l'intimité de mon journal, s'en est chargé. « Eh bien, mademoiselle, me dit-il, en me serrant la main. « Êtes-vous bien convaincue maintenant que notre conscience n'est qu'une lunette faite pour nos yeux intérieurs ? Sans elle, nous ne verrions rien. Avec elle, nous voyons, mais cela seul qui l'intéresse. C'est bien que nous resterions isolés si nous ne nous trouvions pas chez autrui une lunette au moins du même calibre que la nôtre. » Ce soir, j'interprète cette boutade et je me dis « Mon petit camarade connaît l'isolement du cœur et toutes ses souffrances. Il cherche ce que je cherche moi-même. » Un écho à son âme. Pourquoi ne serais-je pas cet écho ? Cela m'intéressera d'ailleurs d'étudier cette âme. Demain, au lieu de rester une heure à disserter à la porte avec Germaine Clot et mes compagnes, je les quitterai pour faire route avec lui. Nous demeurons, je crois, dans le même quartier. C'est tout simple. 9 novembre. Je me suis levée toute heureuse. La nature semblait en fête. Un beau rayon de soleil donnait à ma vieille amie la tour de l'église Saint-Jacques, un aspect joyeux. J'ai ouvert ma fenêtre et il m'est arrivé une délicieuse bouffée d'air qui sentait les arbres d'automne et leurs feuilles mortes. Le vent venait du Luxembourg et par-dessus les toits m'apportait ce parfum. Je combinais ma journée. J'eus un vrai plaisir à constater que je n'avais pas de cours le matin. J'allais pouvoir travailler bien au calme. La besogne du ménage, les enfants à conduire en classe, tout cela fut expédié rapidement, et à 9h30, j'étais à ma table de travail, la fenêtre grande ouverte, avec ce bon soleil de la Saint-Martin, qui semble ne nous quitter qu'à regret, et nous caresse doucement comme un ami cher, avant son départ pour un long voyage.
À 3h30, j'étais prête à me mettre en route pour la Sorbonne. Je ne sais pourquoi, j'avais hâte de m'y rendre. À peine avais-je poussé la porte, qui débouche à droite dans la salle des pas perdus, juste en face de la galerie des lettres, que j'aperçus Jacques Gémis. Il consultait les affiches qui se trouvent dans le cadre de chêne à gauche en entrant. Il était monté sur cette marche de pierre où nous avons toutes stationné, mes compagnes et moi, après ce redoutable examen du concours de Sèvres. Nous cherchions nos noms parmi les admissibles et nous ne trouvions que ceux des autres. « Tiens !» s'écria-t-il en tournant la tête de mon côté au bruit que fit la porte en s'ouvrant. « Vous aussi, mademoiselle, vous êtes en avance. Je ne sais si la perspective de la morale sociologique nous a donné des ailes, mais nous devançons presque d'un quart d'heure notre leçon. « Nous sommes si près de la Sorbonne, » repris-je en souriant, « puisque nous habitons, moi, rue de l'Abbé de l'Épée, vous, rue Galussac, si j'ai gardé bon souvenir de ce que vous m'avez dit en juin dernier à notre oral. Quelle émotion ! Étions-nous assez sots de nous tourmenter ainsi ? Quand on songe aux questions qui nous furent posées, ah, cette année ce sera tout autre chose, si nous tentons la licence à la session d'été. Est-ce que vous comptez vous y présenter ? Moi j'hésite beaucoup. Il me semble qu'il faut bien 2 ans pour faire un bon licencié en philosophie. « Vous avez 1000 fois raison, » reprit-il. « Mais avant d'être un bon licencié, je voudrais être un bon soldat. Ils m'ont ajourné au dernier conseil, mais cela ne se reproduira plus. Ce n'est pas possible. Je me suis d'ailleurs beaucoup développé. » Et le pauvre enfant essayait, en redressant son torse, en rejetant sa tête en arrière, de donner un peu plus d'ampleur à son étroite poitrine. Il continua. « Si vous saviez, mademoiselle, ce que l'on souffre à rester à l'arrière, quand les camarades se battent, quand plusieurs sont déjà tombés. » En disant ces mots, sa physionomie prit une telle expression de tristesse que je m'écriai. « Mais on peut servir aussi à l'arrière, en travaillant, en se préparant à remplacer les autres, ceux qui ne reviendront plus. » « La tâche est trop facile, » reprit-il en secouant la tête. « Il faudrait alors travailler double, triple, il faudrait souffrir aussi, et l'on ne souffre jamais à faire ce que l'on aime. » Très ému, j'allais répondre encore. Quand Germaine Clotte, me tapant sur l'épaule, se mit à me crier d'une voix qui me fit tressaillir. « Mad, la morale, ce soir, ta chère morale, mais pas la morale toute seule, la morale et la sociologie. Entends-tu bien ? Ce sera palpitant. Cette morale sans idéal, cette morale, science positive, cela nous changera de la morale à grand idéal de Mademoiselle Claire. » J'étais sauvé de mon émotion. À 3, nous traversâmes la longue galerie des lettres sans rien dire. Nos pas résonnaient sur la pierre. Tout au fond, la silhouette de l'église de la vieille Sorbonne, dans la splendeur du couchant, se détachait, mystérieuse, et semblait nous appeler. Mais il fallait tourner à droite, et tandis que nous gravissions le banal escalier qui conduit à la salle G, je dis à Germaine « On aurait bien pu faire à la sociologie les honneurs d'un amphithéâtre ?» Elle éclata de rire et répondit « La sociologie n'est pas encore une science. Elle est, comme le dieu de Renan, en train de se faire. Or, les amphithéâtres ne sont que pour les dieux faits. Ainsi, lundi, nous aurons l'histoire de la philosophie critique à Turgot. La critique est le dieu fait de la philosophie moderne. » Sur cette boutade, qui était la manière habituelle de Germaine d'exprimer son orgueil philosophique, nous entrâmes dans la salle. Jacques, s'effaçant pour me laisser passer, me glissa ces mots. « Me permettrez-vous de vous accompagner jusque chez vous, mademoiselle ? Ce soir, il fera nuit quand nous sortirons du cours. » Et comme je fis un signe de tête affirmatif, une légère rougeur colora ses joues. Ce cours m'intéressa. Je ressentais je ne sais quelle chaleur d'émotion. Mon intelligence était ouverte, je saisissais tout. D'ailleurs, que de problèmes avait soulevé l'enseignement du maître. Je frémissais d'impatience à l'idée que j'allais pouvoir les discuter dans un instant avec mon intelligent petit camarade. Quel merveilleux prétexte, pensais-je, pour sonder cette âme. Or, c'était cette âme qui par-dessus tout m'intéressait. J'en étais curieuse, plus que de sociologie. Je me demande ce soir ce que j'en ai recueilli. Peu de choses, mais des choses bien émouvantes. Nous n'avons point discuté sociologie. Nous n'avons pas résolu le problème posé par l'éminent sociologue sur la réalité objective du fait moral. Non. Comme je demandais à Jacques s'il s'intéressait aux questions morales, il me répondit « Oui, passionnément, mais depuis la guerre seulement. » À votre âme aussi, il a donc fallu le choc terrible de la guerre pour qu'elle en vienne à se regarder, à s'interroger à se connaître ?
Oui, répondit-il mélancoliquement. Il faut souffrir pour avoir le désir de se comprendre soi-même. J'ai souffert de la grande souffrance de la France d'abord et puis, après, de ma propre souffrance. Je venais d'achever ma classe de première lorsque éclata la catastrophe. J'avais passé avec succès mon premier baccalauréat. J'avais recueilli la juste récompense de 9 années d'internat.
D'internat ? Repris-je stupéfaite, tandis que je sentais une immense tendresse m'envahir le cœur pour ce petit camarade qui, à 8 ans déjà, avait connu les horreurs du dortoir glacé, du réfectoire aux odeurs douteuses, des grandes salles d'études maussades.
Vos parents n'habitaient point Paris ?
Mais si, seulement ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mon père, avoué très connu, très recherché au palais, était absorbé par ses affaires. Ma mère, très mondaine, très coquette, l'était par ses chiffons et ses réceptions. Alors, comme il me fallait travailler pour succéder un jour à mon père, car j'étais fils unique, l'internat tranchait toutes les difficultés. J'ai donc vécu pendant 9 ans la vie étriquée, malsaine du potache. Confondu dans la masse de mes camarades, je ne valais ni plus ni moins que la moyenne d'entre eux. J'étais amorphe moralement, n'ayant pas assez de volonté pour diriger le courant, pas assez de volonté pour m'y soustraire. Avais-je un cœur ? Je n'en savais rien. On m'avait témoigné si peu de tendresse que je ne l'avais jamais senti battre. Je me croyais indifférent, en tout cas, l'on me faisait passer pour tel. Je vis soudain à quel point je l'étais peu, et quelle âme dangereusement sensible dormait en moi. Lorsqu'en octobre 1914, je repris ma vie d'interne à Henri IV pour y préparer ma philosophie, je n'étais plus le même. Les émotions des 2 premiers mois de guerre avaient donné un choc violent à ma sensibilité. Je prenais enfin conscience de la pesante monotonie de ma vie de collégien. J'étouffais dans ma prison, je souffrais de ne pouvoir agir pendant que mes maîtres faisaient de vains efforts pour m'initier à la science philosophique, que je trouvais d'ailleurs une science vaine. J'étais dans cet état d'esprit quand, aux vacances du jour de l'an, je rencontrai, faisant un séjour chez ma mère, une de ses amies d'enfance que la guerre avait cruellement éprouvée. Son mari, capitaine d'infanterie, avait été frappé en pleine poitrine par une balle ennemie tandis qu'il entraînait ses hommes à l'attaque. Elle n'avait que 38 ans. Séparée si jeune d'un mari qu'elle aimait, sans enfant, elle avait failli mourir de douleur dans la solitude de sa petite ville de province où elle voulut s'enfermer pour rester fidèle à ses souvenirs. Ma mère en eut pitié. Elle lui persuada de venir se fixer à Paris et lui offrit l'hospitalité de sa maison jusqu'à ce qu'elle eût trouvé dans la capitale une installation définitive. Cette femme produisit sur moi une impression profonde dès la première fois que je la vis. Elle avait la réputation d'être belle. Je la trouvais telle, en effet, avec ses grands yeux noirs mélancoliques, son teint mat qui ressortait mieux encore dans ses longs voiles de crêpe. Elle symbolisait pour moi la France en deuil, tragiquement belle dans sa douleur. Les vacances terminées, je retournai au collège, emportant avec moi l'image de la jeune veuve. Elle n'allait plus me quitter. Les sorties se succédèrent. Je la retrouvais chaque fois. Je l'admirais toujours plus et me sentais étrangement troublée par sa voix, le contact de sa main lorsqu'elle serrait la mienne, combien plus par ses baisers lorsque, me traitant en fils, elle se mit à m'embrasser. C'était alors, à chaque rentrée au lycée, le soir dans mon petit lit, des nuits de fièvre où je rêvais à elle, où je l'entendais me parler, où je sentais ses lèvres se poser sur ma joue, ou la chaleur de sa main dans la mienne. Puis, ce fut bientôt toute ma vie transformée, organisée autour de son image. J'écoutais mes cours d'une oreille distraite, je perdais mon temps durant les longues heures d'études à rêver, à écrire ou à rimer mes rêves. Le résultat ne se fit point attendre. J'échouai à mon examen du mois de juin. Mes parents ne me pardonnèrent pas cet échec. Ils me condamnèrent à une seconde année de philosophie dans un lycée de province à Clermont, où l'air serait plus sain qu'à Paris et les distractions plus rares. Mon départ fut un déchirement. Ma mère ne comprit rien à ce désespoir qu'elle traita d'enfantillage. Son amie le comprit mieux, elle se rendit compte, mais trop tard, de la passion qu'elle avait fait naître en moi. Elle crut la guérir par l'éloignement et un absolu silence. Elle ne fit que l'exaspérer. Je pensai alors à me tuer. Un camarade me retint, un camarade expérimenté en ces sortes d'aventures. Il devina mon cœur et parvint à me confesser.
Il chercha le dérivatif à mon délire sentimental et m'entraîna à la virée à liste des amours faciles. Je me laissai faire. Pour me sauver de l'amour, je le rabaissais. Je n'en étais pas beaucoup plus heureux, mais, devenu indifférent, égoïste, je ne pensais plus à mourir. Ma santé subit alors de graves altérations. Une grippe mal soignée me mit en danger. On appela mon père. Il vint, me fit transporter à Paris où le médecin de la famille déclara qu'il fallait interrompre tout travail et m'envoyer dans un sanatorium en Suisse, respirer l'air pur des cimes. Mon âme et mon corps en avaient besoin. Seul, en face de la nature, je me mis à réfléchir. Je compris la folie de mes expériences, la folie de mon éducation, la folie de la guerre, la folie qui emporte notre société sans boussole et sans frein. J'écoutai la voix de la raison, je me pris à aimer la philosophie, je m'intéressai passionnément aux grands problèmes qu'elle pose. J'étais guéri moralement. À Pâques, l'an dernier, je me sentis assez fort pour demander la reprise de mes études. Je retournai au lycée et, en 3 mois d'un travail régulier que mes réflexions personnelles avaient singulièrement préparé, je fis de tels progrès que l'on m'autorisa à me présenter à cette session de juin où je fus reçu et où, je l'entends encore ajouter ces mots de sa voix chaude et sympathique, et où j'eus la chance de vous rencontrer. Comme elle en dit long, cette simple histoire. 10 et 11 novembre. 2 jours sans rien écrire. 2 jours de vie ralentie mais qui m'ont reposé. Cette vilaine grippe, que m'a valu mon travail à la fenêtre ouverte l'autre matin, m'a jeté dans un tel état d'abattement que j'eus beau appeler à mon secours toute mon énergie, invoquer le devoir strict que j'avais d'accomplir ma tâche à la maison, de suivre mes cours à la Sorbonne, il me fallut rester dans mon lit. Maman du reste veillait. Maman, l'ange gardien de ses chères petites. Elle connaît ma mine, je ne puis rien lui cacher. Elle m'a soignée avec une telle tendresse que je suis redevenue la petite Madeleine d'autrefois. Je n'ai guère vécu que d'elle durant ces 2 journées. Lorsqu'au milieu de la vague somnolence de la fièvre, j'épiais son pas dans le petit couloir qui conduit à ma chambre. Je la suivais, les yeux à demi fermés, allant et venant, préparant ma potion, ma tisane. Puis doucement, elle s'approchait de mon lit pour me faire boire, effleurant d'abord de sa main mon front brûlant. Je m'abandonnais alors et j'étais heureuse de me sentir de nouveau intimement liée à elle. S'abandonner. N'est-ce point là l'essentiel de toute religion? Car c'est bien un sentiment religieux, celui qui lie ainsi l'enfant à sa mère. Mais la grande religion, celle qui domine toutes les autres, la religion de l'amour, est-elle de même essence? Demande-t-elle pour être vécue ce même sentiment de dépendance à l'égard de celui que l'on aime? Dieu ou homme? Sentiment qui s'exprime dans un acte d'abandon, dans un aveu de faiblesse? Je crains qu'il en soit ainsi. Alors je ne serai jamais capable d'aucun amour. Non. Je ne consentirai pas à m'abandonner, à abdiquer cette volonté que je crée dans l'effort, jour par jour. J'en ai l'orgueil. Orgueil moral, sans doute. C'est mon excuse, mais orgueil tout de même. Ce sentiment, je le dois aux sages antiques que j'aime passionnément. Mais n'est-ce point là encore une erreur obscurcissant en moi le vrai sens de la vie? N'eût-il pas mieux valu m'en garder et rester l'humble petite Madeleine, abandonnée entre les bras du père, comme elle l'était ces jours derniers entre les bras de sa mère? Pauvre Jacques, s'il venait à m'aimer, comme il souffrirait. Je ne saurais pas l'aimer autrement que de cette amitié qui permet l'échange conscient de 2 personnalités. Et non l'abandon. Mais lui, ne s'est-il pas déjà abandonné à moi lorsqu'il m'a confié toute son âme l'autre soir? Que doit-il penser de mon absence? Comme le moindre malaise vous change et vous rend égoïste, je n'ai pas songé qu'il puisse s'inquiéter. Germaine Clotte a dû le rassurer. Maman l'a rencontré hier et lui a dit que j'avais simplement un peu de fièvre, que je m'étais refroidie. Demain dimanche, Germaine doit venir me voir, et je serai mise au courant des cours que j'ai manqués. Cela me fera du bien et me secouera un peu de ma torpeur grippale. Fin de la section 2. Enregistrée par Pauline Latournerie.
Section 3 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Dimanche 12 novembre. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je me retrouve moi-même. Je retrouve mon âme d'indépendante. Pourtant, je n'ai pas encore la permission de sortir. Maman m'a interdit d'aller à la messe. J'obéis, car pour rien au monde, je ne voudrais manquer mon cours de demain. Je dis mon cours. Suis-je bien sincère? Non. Ce n'est point la Sorbonne qui me manque au point de me faire désirer si vivement ma guérison, mais ce petit camarade dont l'âme m'attire. Il y a 8 jours, j'étais tout à mon rêve d'une Sorbonne que mon imagination paraît de tous les prestiges. Aujourd'hui, le mirage n'est plus. C'est le privilège de l'inconnu de nous séduire ainsi, car il laisse le champ libre à notre imagination. Sans doute, c'est encore l'inconnu qui m'attire avec tant de force vers ce jeune ami que je connais à peine. Ce mirage se dissipera-t-il lorsque j'aurai touché le fond de ce cœur ardent et vrai? À cette pensée, je tremble. Mon âme, marquée de l'infini, ne veut point d'une amitié éphémère. Mais non, il n'en sera point ainsi. Des âmes éprises d'idéal, on ne déchiffre jamais tout le mystère. À 3 heures, Germaine Clotte fit comme toujours une entrée bruyante dans ma chambre. « Eh bien, madame, voilà une idée de s'offrir un congé une première semaine de Sorbonne. Ce que tu en as manqué, des cours intéressants, merveilleux même, et sur ton cher Platon. » Ma physionomie dut sans doute exprimer un tel désappointement que Germaine ne put garder son sérieux. Elle continua. « Non, va, calme tes regrets. Il nous joue un bien vilain tour, ton Platon. À la Sorbonne, il ne parle plus qu'en grec, alors on ne peut plus se comprendre. » Et allez donc vous promener dans le jardin d'Académus ou au bord de l'Ilissus, si vous n'entendez pas le grec, vous n'entendrez pas les cigales chanter. Oui, ma chère, c'est comme ça. Et puis, nous avions un programme, n'est-ce pas? Et au programme, un dialogue de Platon, le Ménon. Devine ce qu'on explique au lieu du Ménon. La République, et puis après, ce sera le Définibus de Cicéron. C'est le cas de dire que tous les chemins conduisent à Platon. Alors tu vois ce qu'il nous reste à faire. Nous débrouiller toutes seules. Nous ne valons pas le coup qu'on s'occupe de nous, pauvres menus fretins. Les normaliens, les certifiés, les boursiers, tous ces gens calés, c'est autre chose. Ils sont en forme, eux, en forme pour recevoir la haute culture philosophique. Aussi, ils exultent. On pense à eux, on explique leurs auteurs. Voyons, après Platon, qu'est-ce qui fit l'objet de leur discours à ces messieurs nos maîtres? Il y eut d'abord le cours de sociologie et puis... Ah oui, je m'en souviens, le cours de mathématiques. Et comme je faisais un brusque sursaut, Germaine insista. Oui, un cours de mathématiques. Et si tu ne fais pas de mathématiques, si tu n'es pas une initiée de la science du nombre, Cournot pour toi sera l'insondable mystère. Car il y a un cours sur Cournot le vendredi. Connais-tu Cournot? Et comme je faisais en riant signe que non, me souvenant pourtant de l'horreur instinctive que m'avait inspirée cet auteur inconnu lorsque je l'avais vu figurer à notre programme, elle continua. « Eh bien, Cournot est le philosophe du hasard et des probabilités. Ce sont des choses qui se calculent dans les hautes mathématiques. Et comme nous sommes nuls ou à peu près en cette matière, nous n'avons qu'à plier bagages. Ou à frapper à une autre porte, repris-je à mon tour indigné. Une licence, cela peut se préparer partout. Dis donc. » Est-ce vrai ce qu'on dit de l'amie de Betty, qu'elle s'est fait inscrire à l'Institut catholique et qu'elle est enchantée de l'enseignement qu'elle y reçoit? On y fait naturellement de la scolastique, beaucoup de scolastique, mais aussi un excellent cours sur Platon et sur la morale des leçons merveilleuses. Le professeur est un dominicain. En robe blanche, ajouta Germaine en riant, car elle connaissait mon goût pour la toge. Mad, il n'y a pas à hésiter, émigrons à l'Institut catholique. Pour la morale au moins, car tu sais, la sociologie tourne mal. Adieu les idées générales qui permettent la discussion et font réfléchir. Nous avons abordé l'étude des grands sociologues. Et voilà qu'on nous a présenté Hobbes, avec sa devise « Homo homini lupus » comme un fondateur de la sociologie. Rien d'étonnant alors qu'à la Sorbonne règne une morale de fauve. On se dispute les places, on s'arrache les chaises, on se mange des yeux. Oui ? Au cours de latin, si tu avais vu la salle bondée, il y avait des chaises jusque dans le couloir. Et d'après les regards qui accueillaient chaque nouvelle arrivante, tu aurais conclu comme moi qu'elle était jolie, la morale moderne que crée le milieu social qui presse sur nous,
La camaraderie a disparu. Partout règne l'ignoble déterminisme utilitaire. Plus nombreux sommes-nous à partager le gâteau, plus les parts seront petites. Ainsi s'explique la mauvaise humeur avec laquelle on accueille les nouveaux venus, et comme ce sont surtout des femmes, elles deviennent des concurrentes. Et pour les jeunes gens, elles perdent tout droit à la galanterie, disons même à la simple politesse.
« Il y a pourtant des exceptions, » hasardai-je timidement.
Je pensais à Jacques. Puis, enhardi par la joie que me causait ce souvenir, j'ajoutai.
« Germaine, tu es vraiment trop pessimiste. Te voilà enveloppant la Sorbonne tout entière dans ta réprobation parce que tu es sous le coup d'une mauvaise impression.
Pensons à notre chère lampe. Je l'entends toujours me disant « Patience, ma petite, ne jugez pas si vite. Vous jugez avec votre sensibilité. » Attendez que vous ayez le calme et vous jugerez avec votre intelligence.
Ah, elle nous a trop gâtés. Voilà pourquoi nous sommes si difficiles.
Et dire que toi, Germaine, tu te plaignais de sa clarté. Tu ne la trouvais pas assez calée, car on la comprenait tout de suite. Tu es punie maintenant.
Ce n'est plus trop clair ce qu'on te dit.
C'est du grec.
Oui, du grec. Mais ne nous montons pas la tête, tout finira bien par s'arranger.
Sans doute tout s'arrange, reprit-elle un peu piquée. À un cours au moins. Pour nous expliquer Leibniz, nous avons un professeur de premier ordre. Il sait s'adapter. Quelle souplesse de pensée, comme il fait clairement et rapidement le tour d'un système.
Mais tu as beau dire, Mad, les efforts isolés de nos maîtres, sans l'unité d'une doctrine, ne feront jamais un ensemble harmonieux et fort. Nous aurons des connaissances variées, mais elles resteront chaotiques et ce sera le naufrage de la vérité. Si elle est partout, elle n'est plus nulle part.
Germaine a raison. Elle qui ne croit qu'à l'intelligence. Mais moi, suis-je encore de sa famille? L'esprit ne peut pas donner la vie. Il y a le cœur. Et je sens que chez moi, pour l'instant, il prédomine. Est-ce une déchéance? Au fond de ma conscience, qu'y avait-il pendant que j'écoutais Germaine? Cette seule préoccupation. Me parlera-t-elle de mon petit camarade? Et j'ai tout fait pour la mettre sur la voie, en l'interrogeant sur Betty, Alice Bernard. Ce fut peine inutile. Il fallut directement lui poser la question.
« As-tu vu Jacques Gémis ?» lui dis-je au moment où elle se levait pour partir.
« Oui, hier, » me répondit-elle. « Il m'a arrêté pour me demander de tes nouvelles, et quand je lui ai dit que tu étais malade, il a proposé de t'apporter ses notes, puisqu'il demeurait dans ton quartier. Je lui ai répondu que c'était inutile, car je devais moi-même venir te voir aujourd'hui. »
Voilà bien Germaine. Elle n'a rien vu, rien compris, et se croit grand philosophe. Comme si l'on pouvait connaître l'âme humaine en général et ignorer les âmes de ceux qui vivent à nos côtés. Mardi 14 novembre 1916. J'ai retrouvé la Sorbonne avec une joie infinie. Je l'aime maintenant, et pourtant rien n'y est changé.
La logique avec l'histoire des catégories n'est pas plus intéressante, la psychologie de l'inconscient non plus, et le fameux cours qui devait avoir lieu sur la philosophie critique à l'amphithéâtre Turgot est encore remis à huitaine. Peu importe tout cela. Je suis prise de sympathie pour cette salle G, pourtant si banale. Je m'y sens chez moi. Une atmosphère très douce m'y enveloppe et me tonifie. Après cette réclusion forcée de quelques jours dans ma chambre, je me sens heureuse au milieu de mes camarades. Germaine avait tort. Je ne vois point de regard haineux se poser sur moi. Je trouve à mes compagnes de bonnes figures ouvertes, intelligentes. Il y en a même parmi elles de fort sympathiques et je ne crois pas nos camarades hommes si insensibles que cela au charme féminin. Ils ne manquent point de politesse, ni même de galanterie. On voit s'ébaucher quelques flirts. Betty est arrivée en retard ce matin et l'un d'eux galamment lui a offert sa chaise. Je sais bien que Betty est jolie et Germaine ne manquerait pas de me le dire si je lui faisais cette remarque. Mais après tout, c'est un bien. Si ces grands garçons, voués aux livres et à la haute culture, savent rendre hommage à la beauté, c'est une victoire pour le féminisme, qui pourrait du reste résister au sourire de Betty. Tandis qu'à celui de Germaine, ce n'est point difficile. Elle a de l'intelligence dans le front et les yeux pourtant. Mais quelle physionomie dure, quel corps malingre et anguleux! Et l'on dirait qu'elle prend un véritable plaisir à accentuer encore ses défauts par ses allures masculines, ses tailleurs rigides, ses chapeaux d'homme sur ses cheveux trop tirés. C'est ce physique ingrat qui la rend, je crois, si pessimiste. Son orgueil d'intellectuel prend sa revanche. Non, vraiment, elle juge mal. Cette salle de cour est agréable à regarder. Il y a de jolis minois, de petites têtes intéressantes et fines, et même fort bien coiffées. À côté de Jacques, il y avait aujourd'hui une petite rousse vraiment exquise. Sous une toque de chinchilla,
avec des cheveux ébouriffés aux reflets fauves, un petit nez en l'air, de grands yeux bruns étonnés, elle apparaissait comme un de ces bébés qui font l'admiration des passants à la devanture des marchands de jouets, et l'on se demandait ce que la philosophie pouvait bien faire dans cette petite tête. Il paraît qu'elle porte un grand nom, et que cela ne lui a pas été facile de s'évader de son milieu pour venir respirer l'air du quartier latin. J'ai fait part à Jacques de la rumeur publique, et je l'ai plaisanté au sujet de sa jolie voisine, mais il n'a point goûté ma plaisanterie. Il m'a répondu qu'il ne voyait, lui, qu'une nuque bien découpée et fine, avec des cheveux châtain clair, des yeux rieurs ou profonds, changeant comme la mer. Il a bien fallu que je comprenne. Nous voilà au sentimentalisme déjà. Adieu la bonne camaraderie. J'en étais si contrarié que j'ai eu le courage de lui dire, un peu brusquement peut-être, le fond de ma pensée. J'ai voulu remettre les choses au point tout de suite. J'ai mis, lui ai-je dit, n'essayez point l'amitié amoureuse avec moi. Vous n'y réussirez pas. J'ai horreur de ces sentiments troubles qui mettent du brouillard dans l'âme. Je n'aime, moi, que les situations nettes. Or, entre hommes et femmes, trois sortes de liens sont possibles, ceux d'époux, d'amants ou d'amis. Nous sommes trop jeunes, vous tout au moins, pour songer au mariage, car je suis votre aîné et j'ai 22 ans. Nous sommes trop honnêtes pour être jamais des amants. Alors, l'amitié nous reste. Mais quelle amitié ? Une amitié profonde, élevée, intellectuelle, unique en un mot. Allons-y de toute notre âme. Ce sentiment-là est beau, noble, sans danger. Il est de guerre. Que la Sorbonne fasse de nous des frères d'armes, tout comme les tranchées. L'heure était mal choisie de cette brusque franchise. Jacques ne l'a pas comprise. Il m'a répondu tristement que j'étais bien heureuse de pouvoir ainsi classer mes sentiments, que c'était bon dans les livres, dans les manuels de psychologie, mais non point dans la vie. Je lui ai fait de la peine. J'ai obéi, comme toujours, trop vite, à ce besoin d'ordre et de clarté qui est tyrannique en ma nature. On ne précise point aussi nettement et dès le premier jour un sentiment. C'est un moyen de lui donner corps et c'est commettre une faute. J'aurais dû tenter de le discipliner habilement, doucement, sans rien dire. Je vais m'y essayer. Je suis d'ailleurs la grande responsable dans cette aventure. Tout à la joie de cette amitié neuve et jeune, je n'y ai mis aucune mesure et, sans m'en douter, en imprudente, j'ai ouvert les ailes à l'imagination si vive de cet étudiant de 19 ans. Il faudra que je me retire sans rien brusquer, doucement. Je trouverai bien des prétextes. Comme cette pensée jette une ombre sur ma joie. Mercredi 15 novembre. Cette fois, Germaine ne s'était pas trompée. Je suis enchantée de notre cours sur Leibniz. Nous voilà en pleine métaphysique. Nous prenons le large. Les idées innées me ramènent à mon cher Platon. Ah, les joies de la pensée et de la spéculation, ce sont les seules joies véritables. Pauvre Jacques, je lui ai simplement serré la main aujourd'hui sans m'arrêter, sous prétexte d'un rendez-vous. Il m'a apparu bien triste. Dimanche 19 novembre. Je n'en puis plus, j'ai beau vouloir être fidèle à mon confident chaque soir, je le délaisse. J'aurais trop à lui dire et je me sens lasse. La vie en ce moment me demande trop d'efforts et ne me donne pas ce minimum de satisfaction auquel j'aurais droit. Cette leçon que j'avais tant désirée, que la lampe avait tout fait pour me donner, car elle savait qu'elle serait pour moi un gain immédiat et sûr, m'est odieuse, elle me pèse. Un enfant de 12 ans, à l'intelligence lente, épaisse, ne sachant rien, alors qu'il devrait tout savoir, puisqu'il appartient à une certaine classe où il est de bonne aloi d'être cultivé, voilà l'objet de ma pensée 2 heures durant, presque chaque soir. J'aligne des fautes de grammaire, des faux sens, des contresens, et les aiguilles sur le cadran que je guette semblent immobiles. Si c'est là ce que me réserve l'avenir dans l'enseignement, j'y renonce. Je ne me sens point la force d'assumer un tel labeur. Et pour quel salaire ? 120 francs par mois, 8 heures par semaine. Cela fait un peu plus de 3 francs l'heure. Comme on la cote bas, la vie de l'esprit. C'est bien la caractéristique d'un siècle de barbarie que ce triomphe de la matière. Pourquoi n'ai-je pas été voir la lampe ce matin ? Elle m'aurait fait du bien dans mon désarroi. Oui, je sais pourquoi. Il y a de l'orgueil dans mon abstention. Je me sens faible et je veux qu'elle me croie forte. Il fait noir en moi et je ne veux lui laisser voir qu'un clair sourire. Elle est si gaie, elle, et tout me porte à la tristesse. Ce temps gris d'hier, ce brouillard pénétrant et froid,
qui doit glacer nos pauvres soldats durant leur veille. Peu de nouvelles du front, et mes frères sont dans un secteur où l'on se bat. Papa est plus soucieux qu'à l'ordinaire. Je crois qu'il a des ennuis terribles avec son personnel à l'usine. Il ne fait pas de ses ouvriers ce qu'il veut. Il ne m'a rien dit de net, mais la façon dont il parle du socialisme lorsque j'entame ce sujet me prouve qu'il en a gros sur le cœur. Et pourtant, il est socialiste, lui, dans l'âme, mais socialiste pratique. Il rêve de justice, mais il contrôle son rêve en le vivant. Il combat dans l'arène, il voit les ouvriers, il les dirige, et pourtant, il n'a pas le droit de parler. C'est dur. Mon dimanche s'achève et il ne m'a pas donné la joie d'un jour de repos. Sans doute, c'est de ma faute, je l'ai mal commencé. Sous prétexte de reprendre des forces, j'ai dormi tard dans la matinée. C'est en vain que ma vieille amie, la cloche de l'église Saint-Jacques, a fait entendre sa voix. Je suis restée sourde à son appel. J'ai payé bien cher cette défaillance, car j'ai mal dormi à cette heure tardive, et je me suis privée de cette joie intérieure que l'on éprouve après chaque effort et qui seule transforme la vie. Tout me manque, et Dieu, et l'amitié, et je souffre. Je me trompais donc lorsque je croyais pouvoir étouffer ma sensibilité de femme. Les joies de l'intelligence ne comblent pas les vides du cœur. Désormais je serai plus humaine. Je suivrai ma nature, mais ma nature tout entière, raisonnable et sensible, à la façon d'Épicure. Mais que dira notre chère stoïcienne? Elle me comprendra, j'en suis sûre. Dimanche prochain, je lui ferai ma confession, et cette semaine sera une semaine de nouvelles expériences. Demain, j'accorderai à Jacques la permission de m'accompagner chez moi, et nous ferons en route 1000 beaux projets de travail en commun. Nous poserons les bases de notre amitié, franchement, loyalement, sans crainte. Puis, ce soir, avant de m'endormir, j'ouvrirai mon évangile. Ce sera ma prière du soir, pour remplacer la messe manquée ce matin. Fin de la section 3, enregistrée par Pauline Latournerie.